Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier du CX Summit Éloquent. Objectif relations clients 2025. Et cette fois, on va parler de CRM et de centres de contact et on va voir tout simplement comment améliorer l'efficacité des agents avec une belle intégration entre le CRM et centre de contact. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants experts. Alors, on va commencer par Laetitia, hein, je vous laisse vous présenter, ainsi que la CCI de Paris.
Donc, Laetitia Mignard, responsable qualité et projet pour le GIE. Le titre est long, je suis désolée, du groupe de la CCI Paris-Île-de-France. Je travaille avec Arthur Chêne, ici présent.
Je suis responsable du pôle expert, notamment du système d'information de la relation client, où dedans il y a le CRM et la solution Éloquent, ainsi que ses feedbacks. Et je suis administrateur sur les deux, sur les trois, pardon.
Ludovic.
Bonjour à tous, Ludovic Riquet, je travaille chez Éloquent depuis 18 mois et donc mon rôle est d'accompagner les forces commerciales sur la promotion de nos offres. Je suis donc ingénieur avant-vente.
Alors ce que tu ne dis pas Ludovic, c'est que tu as près de 150 projets à ton actif, 150 projets CRM.
Ouais, c'est-à-dire qu'avant de travailler chez Éloquent, pendant 20 ans, j'ai tourné sur trois principaux, on va dire, éditeurs de logiciels CRM. Et j'étais en charge donc de les installer chez nos clients.
Donc tu es passé du côté de la barrière, tu es passé de chef de projet à avant-vente. Donc là maintenant tu as vraiment cette expérience concrète de comment on met en place un CRM et comment ça s'intègre véritablement avec une solution de centre de contact. Ouais, donc ça c'est quelque chose de très précieux.
J'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les 100 projets dont tu te parles, il y a eu à plusieurs reprises effectivement des expériences qui ont fait que j'ai fait collaborer l'outil de CRM avec l'outil de centre de contact.
Et d'ailleurs, tu as beaucoup travaillé aussi au niveau des CCI, tu connais très bien les problématiques
de ces... Pas sur le logiciel actuel que vous possédez, mais sur le précédent, oui.
Alors, si on peut passer maintenant en termes un peu plus concrets, donc vous avez mis en place la solution de centre de contact, Éloquent, vous avez mis en place un CRM. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi vous avez mis en place justement cette intégration entre les deux, qu'est-ce que ça apporte en fait?
Ça apporte plusieurs choses, notamment sur le côté agent, un gain de temps et un confort avec la mise en place du CTI, le couplage de téléphonie informatique, qui va fonctionner dans deux sens. Il y a sur le flux entrant, quand un numéro appelle, en fait le CTI va venir chercher dans le CRM si un contact porte le numéro de téléphone qui appelle. Ouais. Trois résultats possibles, une seule fiche contact, c'est la fiche du contact qui remonte. S'il y a plusieurs fiches contact, il y a un tableau qui s'affiche avec différentes informations pour permettre à l'agent de choisir le bon contact dans le CRM, et si jamais il n'y a pas de résultat, ça ouvre la page de recherche de contact. Donc ça, c'est un gain de temps précieux et pour l'agent, parce que ça évite de devoir chercher manuellement, et c'est aussi un avantage pour le client, puisqu'il est reconnu, puisqu'on le connaît, on peut dire, c'est bien vous nous avez appelé d'ailleurs à telle date, on retrouve facilement l'historique, et ça permet vraiment de gagner même du temps si une personne appelle par rapport à un dossier qui est en cours, l'information sera dans le CRM. Et après, sur la partie appel sortant, puisqu'on fait de la prospection commerciale, là, cette fois-ci, c'est pas le numéro de téléphone qu'on va chercher dans le CRM, mais c'est on va venir donner les informations liées à l'activité téléphonique, liée à l'appel, donc le compte-rendu que va faire l'agent après l'échange avec le client, pour le repousser dans le CRM, pour le remettre sur sa fiche contact, pour que l'information soit stockée dans le CRM. Ça évite de faire de la double saisie ou de faire après du réimport manuel. Et donc ça fait une charge administrateur qui est assez lourde. Là, il y a un automatisme qui se fait, qui permet de réinjecter la donnée directement dans le CRM. Puisque le CRM, l'objectif, c'est qu'il garde tout ce qui est interaction client.
Mais il va centraliser toute la connaissance client. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit Laetitia il y a quelques minutes, c'est le GIE CCI Paris de France, puisqu'il n'y a pas que la CCI de Paris. Donc vous avez fait en fait un projet CRM et centre de contact qui était un petit peu échelonné entre différentes CCI, CCI de la Marne par exemple, et quel était justement ce process, et ensuite quel était le CRM que vous avez utilisé, parce que Éloquent s'interface avec Salesforce, avec Pegas CRM, avec Efficie CRM, etc. etc. Comment ça s'est passé et est-ce que ça avait des impacts derrière, et donc quel est l'outil que vous utilisez?
L'outil qu'on utilise, c'est Microsoft Dynamics. Son petit nom en interne, c'est Seos.
Seos,
oui, c'est le nom du titan grec, celui qui sait, de mémoire, si je me rappelle bien. Il y a eu un vote, c'était très sympa, un vote, tout le monde a voté pour ça, donc ça permet de fédérer un peu les gens autour du CRM. Et effectivement, au sein du groupe CCI Paris Île-de-France, il y avait différents CRM, et le but, c'était d'en avoir qu'un seul, pour en fait réunir les chambres de commerce de l'Île-de-France et toute la 2D.
Et donc, ça a été un peu un challenge parce que c'était quand même des données qui étaient pas tout à fait les mêmes partout. Les mêmes, oui. Vous l'avez dit, au niveau du projet, certaines CCI ne voulaient pas garder le même historique, les mêmes qualités de données. Il y a absolument vraiment un échange là-dessus.
Tout à fait. Il y a une vraie réflexion à avoir sur déjà la structure de la donnée, le modèle de la donnée. Et en termes de reprise de données, forcément, il va y avoir un travail de ce que j'ai maintenant, ce que je vais avoir demain. Et quand on est plusieurs autour de la table, on va avoir trois modèles de structure de données différentes qui doivent à la fin arriver dans un même moule. Donc ça, c'est un gros travail au niveau de la reprise de données. Donc c'est vraiment une vraie charge à avoir. Et puis, il faut faire après attention aux effets de bord quand on recharge la donnée après d'un nouveau CRM, puisque ça peut avoir des impacts. Et puis après, sur effectivement quelles données on veut garder. Pareil, il y a un vrai travail à faire là-dessus, d'un point de vue RGPD, d'un point de vue commercial. Qu'est-ce qu'on veut garder en termes d'interaction client? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et de garder voilà, des contacts qui sont bien qualifiés, ceux qui sont un peu moins bien qualifiés. Est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on garde que les dernières interactions? Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser au niveau du projet, effectivement, parce que le but d'un nouveau CRM, après, c'est d'avoir de la donnée qui est propre, qui est solide, et le but, c'est pas de reprendre tout ce qui peut exister dans l'ancien CRM, forcément.
Ouais, vous nous avez dit que la data est périssable, grosso modo, dans certaines CCI, c'était 4 mois comme ça de données, ils considéraient qu'une donnée était fraîche pendant 4 mois, d'autres disaient non, mais je vais garder un an. Comment on détermine ça? C'est quoi? C'est le fait d'avoir des interactions régulières? Est-ce qu'il faut qualifier sa base? Comment ça se passe pour, on dit souvent garbage in, garbage out, quelles ont été les politiques qui ont été menées au niveau des différentes CCI? Parce que chacun a pu être un petit peu autonome sur la reprise des données.
Chacun a fait son choix.
Oui.
Ils ont été libres de faire leur choix. Il y a quand même eu quelques opérations pour réintégrer une base propre, pour partir sur une base solide, comme une campagne de qualification sur laquelle on a travaillé avec nos équipes, ce qui nous a permis de... Alors, petit micro qui tombe, mais c'est pas grave, je vais le tenir, ça marchera aussi. Qui nous a permis de réinjecter de la donnée fraîche avec, dans le B2B, dans le secteur du B2B, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de turnover, donc on avait vraiment besoin que la donnée, au-delà des 6 mois, par rapport à la dernière interaction, soit vraiment rafraîchie. Donc ça, c'était le premier enjeu et... toutes les CCI n'ont pas choisi de le faire. Ouais. Une qui a le plus gros volume a décidé de le faire. Et les autres ont fait d'autres choix. De délai entre la dernière interaction et l'enregistrement des données. Et au final, on s'en sort plutôt bien.
Oui.
On est plutôt content. Et on parlait du CTI tout à l'heure. Le CTI permet aussi d'identifier tous ces doublons de contacts. Permet aussi à nos collaborateurs sur le centre de relations clients de se dire je vais peut-être pouvoir aussi nettoyer moi. Je suis aussi acteur et je participe au rafraîchissement de la donnée et je vais pouvoir revérifier l'identité de la personne que j'ai en ligne. Donc c'est un travail quotidien, c'est une hygiène quotidienne. Et c'est des bonnes pratiques qu'on doit tous partager parce qu'on est beaucoup d'utilisateurs dans cet outil.
Ouais, vous disiez que c'était l'importance d'avoir le mobile parce que le fixe, souvent, c'est du standard. Mmh. Et là, en fait, il y a peut-être donc une démarche à faire pour aller nourrir le CRM et qui était peut-être pas forcément fait systématiquement. Mmh. Mais là, donc, quand on reçoit un appel, est-ce que vous enregistrez, vous mettez à jour le CRM? C'est quelque chose qui est demandé ou c'est fait à la main du conseiller en toute autonomie?
C'est une bonne pratique qu'on demande à tous de porter, pas seulement à notre niveau, au niveau du centre de relations clients, mais aussi aux conseillers experts, parce que, encore une fois, la donnée, c'est de l'or. Réussir à atteindre son client du premier coup, c'est important. Le suivre tout au long de son parcours client, c'est important aussi. Et quand il nous appelle, personnaliser l'accueil, c'est un gros plus dans l'expérience client.
C'est sûr, si on dit bonjour Laetitia, ça va pas être la même chose, bonjour, comment je peux vous aider?
Exactement.
Alors justement, il y avait certaines CCI qui voulaient garder des fiches sans aucune coordonnée. Ils voulaient juste avoir le nom du dirigeant. Et d'autres, en fait, qui disaient, au bout d'un an, tous ceux qui sont non clients, hop, on les enlève. Mm-hmm. C'est vraiment des choix. Et qu'est-ce que vous recommandez, votre expérience? Parce que c'est quand même assez drastique de se dire, au bout d'un an, hop, je les mets dehors. Parce que quelque part, c'est des gens à qui on a un contact, on leur fait participer à des ateliers, à des formations, etc. Oui. C'est quand même pas anodin comme choix.
Non, effectivement, c'est un choix qui est à faire. Après, c'est un choix où chacun est libre. Après, il y avait des fois des contraintes techniques parce qu'il y avait d'autres. Il y avait des activités, par exemple, comme des emails, des appels téléphoniques qui étaient greffés au contact. On devait le garder pour qu'elles puissent exister. Ouais. Après, ce qui est paradoxal, c'est que ces activités existaient, mais le contact n'avait pas en soi de coordonnées valides. Donc voilà, il y a des choix qui devaient être comme ça, mais effectivement, après, ce que moi personnellement je recommande, c'est qu'un contact qui n'a pas de coordonnées, juste pour le faire exister dans la base, ça ne sert pas à grand chose. Mmh. Enfin, ça ne sert à rien parce que ce sera impossible de l'identifier, de le cibler, d'utiliser. Et si jamais il recontacte plus tard, ce sera impossible de dire est-ce que c'est bien la bonne personne. Surtout après, s'il y a des noms, prénoms qui sont communs, c'est vraiment très difficile.
Des pratiques qui existaient il y a peut-être 15 ans, 20 ans, où on envoyait des courriers effectivement à des contacts. Et donc, on avait juste l'adresse postale effectivement, de l'organisme auquel il était rattaché. Mmh. Aujourd'hui, on n'envoie quasiment plus de fax, plus de courriers. Et donc, c'est vrai que des données sur lesquelles il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas un email. Elles ne sont pas trop utiles.
Absolument. Et quand on fait des campagnes de prospection commerciale, notamment, première chose que je regarde, c'est combien j'ai de numéros de téléphone portable. Avec un numéro de téléphone fixe, bon, ça peut être un standard ou un fixe direct, en général, l'atteinte de cible, elle est beaucoup plus difficile. Et ça, on le voit au niveau de nos résultats, hein, c'est beaucoup plus difficile.
Alors justement, au niveau de ces campagnes, on sait que souvent, ce qui est facile à faire, c'est d'atteindre les 40, 50, 60% des appels. Et on a ce fond de tiroir qu'on n'arrive pas à écluser parce que les personnes sont soit mis en téléphone injoignable, on laisse des messages. Quelles sont un petit peu vos bonnes pratiques? Parce que on le verra tout à l'heure avec Ludovic, l'appel sortant avec le CRM, ça fait gagner du temps, mais il y a toujours ce fond de tiroir qu'on n'arrive pas à écluser. Quelles sont un petit peu vos stratégies là-dessus? Vous dites, ok, d'accord, passez un certain nombre, un certain taux d'appels, vous allez passer une nouvelle campagne, vous essayez vraiment d'avoir une joignabilité de 95, 90, 100% des personnes sur des listes. C'est plutôt...
Sur les résultats, c'est compliqué. La prospection sortante est toujours très compliquée, surtout s'il n'y a pas eu d'interaction depuis longtemps. Donc le numéro n'est pas reconnu. Donc forcément, l'atteinte de cible, la joignabilité est un peu plus compliquée. Les stratégies que nous, on a mis en place pour introduire l'appel, c'est très souvent des campagnes d'emailing, qu'on pourrait combiner d'ailleurs au SMS quand on a le SMS, mais là, ce n'est pas souvent le cas d'avoir le numéro mobile. De mobile. Et puis ensuite, essayer aussi, ce que font certaines CCI, c'est de créer des événements pour pouvoir rafraîchir cette base et dire, bon, on va les inviter à un événement. Ils répondront, ils ne répondront pas, mais au moins ceux qui répondront nous permettront d'obtenir une donnée plus fraîche et exploitable.
D'accord. Ce que disait Lucia est vrai, c'est-à-dire que si le numéro de téléphone n'est pas identifié, ça je pense qu'on le fait tous, hein, quand on ne connaît pas le numéro de téléphone, on ne décroche pas, c'est simple que ça. Déjà, il ne faut pas appeler un numéro inconnu parce qu'il y a rien de pire que ça, mais nous ce qu'on demande c'est de laisser un message vocal. Pour se présenter, et c'est une voix humaine, donc c'est pas un bot qui laisse un message, c'est une voix humaine en se présentant, et déjà ça, les clients, des fois, nous rappellent après derrière. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie de joindre une fois, on laisse un message, ils vont nous rappeler derrière, et si on dispose du mail, pareil, on envoie un mail d'information en disant, voilà, j'ai essayé de vous joindre par rapport à ça, si jamais ça vous intéresse, revenez vers moi. Ça permet d'augmenter un petit peu l'atteinte de cible quand on n'arrive pas à la voir directement au téléphone.
D'accord. Alors là, maintenant, on va passer un petit peu à l'aspect gestion de projet et mise en place. Alors, comment vous avez fait? Parce que vous avez passé, je trouve qu'il y a un bon choix, Ludo, tu pourras nous en parler juste après, mais c'est le mode pilote qui est généralement une bonne manière de pouvoir mettre en place une connexion CRM et centre de contact. Alors, comment ça s'est passé un petit peu? Parce que c'est en 2022 que vous avez lancé cette intégration-là.
Tout à fait, oui, ça a commencé en 2022. Alors nous, on n'est pas rentré en 2022, on a commencé en 2023, en février 2023. Mmh. C'est notre CCI qui a d'abord été dessus en 2022, on les a rejoints après coup. Et si la version pilote, ça permet de faire remonter en fait justement toutes les choses qui vont, qui ne vont pas, et de pouvoir justement après faire des nombres d'évolution, de la recette. Sur la partie, le couplage entre les deux, sur la partie CT entrant, ça a été très simple de mettre en place, ça a été assez facile. Là, on a eu un peu plus de difficultés, c'est sur la partie appel sortant, parce que ça va venir interagir avec différentes parties prenantes. Il y a Eloquent qui envoie l'information après feedback. Feedback, il envoie à l'EAI chez nous, qui après va renvoyer l'information au niveau du CRM. Donc il y a un cheminement comme ça qui est fait, qui n'est pas forcément simple au départ sur le format de la donnée, qu'est-ce qu'on récupère, comment on l'interprète, etc. Par exemple, on a une table pour traduire les résultats d'Eloquence, de comment ça doit être après au niveau dans le CRM. Ça paraît, il faut se mettre d'accord dessus, puisque les objets qui vont exister, notamment les activités téléphoniques dans le CRM, une fois qu'on les a modifiés, on ne peut pas les remodifier comme ça à l'infini, parce qu'on modifie la structure de données, donc il faut bien se mettre d'accord sur est-ce que c'est suffisant ou pas ce qu'on a défini.
Pour compléter ce que tu dis sur le mode pilote, ce qui était intéressant, dans tous les projets, il y a une phase de recette, il y a des cas d'usage qu'on dépile, qu'on déroule en mode robot et en masse. Mais le mode pilote, c'est intéressant parce que quand on a vraiment l'outil en main et qu'on est vraiment dans le dur, dans le vrai, on s'aperçoit que non, ça ne marche pas. Donc, le pilote a permis d'essuyer les plâtres sur certains process et de rattraper certains choix de paramétrage qui n'étaient finalement pas du tout pertinents pour la vraie vie. Donc,
c'est vrai, il y a une différence. J'étais recetteur dessus, donc quand on fait un cas de recette, on le fait une fois, deux fois, ça va. Mais après, quand on est vraiment dedans, on va le faire 50 fois par jour. C'est pas le même effet. Et effectivement, on s'est rendu compte de plusieurs choses comme ça, où on a repris notre direction, on a changé.
Sur le nombre de clics, les
campagnes. Les gestes du métier, des automatismes qui peuvent être définis, l'affichage de champs. Oui. Si on pouvait mettre ça de manière automatique, ce serait pratique. Au final, c'est pas pratique du tout parce que c'est confus pour les personnes. Ça permet de tester tout ce qu'on a, parce que la phase projet, on imagine, on se projette, et après quand on est dans la vraie vie, la personne va faire 10 fois, 20 fois, 30 fois ça dans la journée, finalement c'est pas pertinent, ou c'est confus pour les personnes, finalement le nom du champ on n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Donc ça, c'est la phase pilote, elle est importante pour faire remonter un maximum de choses et pour pouvoir vite corriger le tir si jamais on a pris des mauvais chemins.
Alors, cette phase pilote, pour revenir à ça, est-ce que c'était tous les agents de la CCI? Est-ce que c'était un petit nombre? Est-ce que vous alliez à côté des agents? Vous aviez un comité de pilotage? Comment ça s'est passé, cette mise en place en mode pilote à la CCI?
Il y a une première CCI qui a été déployée avec l'ensemble de ses utilisateurs. Effectivement, il y a un comité de pilotage qui a été fait. On est accompagné par différents prestataires, justement pour l'établissement des cahiers de recettes, faire remonter les cas, les tickets d'évolution. Et ensuite, après, on a commencé à faire intégrer de plus en plus d'utilisateurs. Donc, les premiers, ça a été une CCI parce qu'ils arrivaient à la fin de leur marché avec leur prestataire CRM. Donc, ils ont été prioritaires dessus. Nous, ensuite, on a rejoint, en février 2023. Une autre chambre de commerce a rejoint ensuite en fin mai. Et la dernière chambre de commerce, là, il y a le plus gros des utilisateurs, sont arrivés fin juin. Donc, ça s'est fait progressivement.
Et pour revenir sur ce que tu posais comme question sur les retours d'expérience, que c'était important, nous, on s'était organisé avec la CCI pilote pour se voir régulièrement et se dire... est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on est toujours cohérent dans nos choix? Est-ce que le workflow est toujours bon? Est-ce qu'il faut changer un process? Est-ce que ce qu'on envoie est toujours de qualité, est toujours lisible? Et ça, c'était important de garder ce lien-là, parce que sans ça... je pense que vraiment, on n'aurait pas réussi le projet.
Non, effectivement, et c'est important, de manière générale, c'est important de bien communiquer, mais encore plus comme ça, parce que là, c'était... Avant, on utilisait deux outils différents. Là, on était tous ensemble au sein du même outil et c'est important de communiquer sur est-ce que ce qu'on fait, ça fonctionne pour nous, pour vous et inversement. Et faire après remonter ça au comité de pilotage pour dire est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas. Parce que le but du pilote, c'est ça, c'est de tester si tout ce qu'on a défini fonctionne ou pas. Et c'est important de bien communiquer, d'échanger là-dessus, parce que sinon, effectivement, après, il y a des loupés, et exactement, c'est trop tard.
Oui, parce que, en plus, comme vous l'avez dit, au début, on commence généralement par un petit pilote avec des gens qui ont des besoins un peu plus simples, qui sont plus petits, et après, on va passer, vous êtes passé aux personnes qui sont les plus nombreuses, et ce n'est pas forcément les mêmes besoins, et donc il y a un vrai arbitrage à faire. Ludo, je crois que tu l'as vu plusieurs fois dans des projets CRM comme ça, où on avait un pilote vraiment simple, et puis quand on passait aux besoins plus complexes, on disait « Ah !» Tiens, finalement, ça ne rentre pas et ce n'est pas les mêmes process.
Ça dépend vraiment de la volumétrie, effectivement. Si vous avez plusieurs agences et plusieurs bureaux et que vous souhaitez mettre en place ça sur une centaine, 150 personnes simultanées, il peut y avoir des effets de bord et c'est toujours déstabilisant pour revenir en arrière et repartir obtenir la satisfaction et l'optimisme des utilisateurs. Donc, effectivement, partir sur une petite équipe qui va pouvoir tester pendant une période plus ou moins longue et s'assurer ensuite que tout fonctionne pour déployer ça de manière générale, c'est l'idéal. Ouais.
Alors je crois aussi, lors de la préparation, vous avez dit qu'avec le CRM, il faut toujours prévoir un petit budget d'ajustement, parce que ça ne veut pas dire parce que le CRM est mis en place que ça y est, c'est fini. Alors expliquez-nous un petit peu le pourquoi et qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre en considération si on veut donc mettre en place un CRM et aussi la partie intégration CTI qui sont des éléments clés.
Bah, parce que là, voilà, on est typiquement dedans, c'est qu'on est en fin de projet et en même temps, on est dans le run. Donc, on est entre ces deux étapes-là. Et effectivement, c'est important de garder de la bande passante, que ce soit en temps homme, parce que sur la phase projet, ça demande beaucoup de temps. Mais une fois qu'on est passé vraiment dans l'outil, il faut réussir à se partager sur maintenant, on est dedans. Et à partir sur la partie projet, s'il faut continuer de faire des tests, des ateliers, ça demande beaucoup de temps d'un point de vue humain. Donc ça, il faut prévoir les ressources humaines derrière. Et effectivement, après le budget, okay. Si jamais on doit revoir justement des évolutions, corriger des choses, c'est ce que tu disais, il y a un besoin métier finalement qu'on n'a pas prévu. Oui. Il est important, il est vital, il faut qu'on le développe. S'il n'y a plus de budget pour faire ça, après, au niveau accompagnement utilisateur, et même ça peut mettre en péril après l'entreprise, hein, s'il y a des fonctionnalités qui ne peuvent pas être développées, et ça peut être très bloquant. Donc ça, c'est important de toujours se laisser une marge de manœuvre.
C'est 10-15%, Ludo, ton avis ?
C'est surtout humain, je voulais rebondir. Effectivement, au-delà de l'aspect financier, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les équipes continuent à être mobilisées, aussi bien au niveau de l'administration que des utilisateurs, que des pilotes, pour pouvoir continuer à tester et à faire leur retour de manière régulière. Ouais. Mais sinon, effectivement, c'est une fourchette de 10-15% de... Pour la gestion de la recette et du suivi.
Pour gérer un petit peu l'après. Alors, justement, là, on a vu qu'il y a eu intégration CRM et centre de contact. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez mis en même temps le centre de contact et le CRM ? Est-ce que vous avez mis le centre de contact et le CRM ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Quel est votre retour ? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, sur le sujet ?
On a commencé, nous, par le téléphone.
Hein. Oui.
C'était la priorité.
Oui. On a mis en place effectivement la solution Locant dans un premier temps et après il y a eu le changement de CRM qui s'est opéré. Je ne sais pas s'il y a un sens mieux que l'autre, mais en tout cas je pense que faire les deux en même temps c'est compliqué. c'est compliqué parce que l'avantage d'avoir mis en place la solution de téléphonie dans un premier temps c'est qu'on était mature dessus sur nos besoins et c'était facile de l'exprimer sur la partie CRM et je pense que c'est plus simple d'arriver à être mature sur la partie téléphonique que sur la partie CRM. Parce qu'il y a moins de données, il y a moins de schémas techniques, il y a moins d'interactions, surtout sur le CRM Microsoft Dynamics, je pense que le plus gros CRM, ça offre énormément de possibilités, il y a énormément de choix. Et c'est plus simple, je pense, du coup, de passer d'abord par la téléphonie et après sur le CRM.
C'est un périmètre qui est plus simple fonctionnellement, la solution téléphonique. Donc en termes de déploiement, ça va être sur des projets de 6-8 semaines, alors que c'est des projets CRM. Avec la richesse fonctionnelle, ça peut déboucher sur plusieurs mois de déploiement. Ouais.
Absolument.
Le déploiement d'Eloquent a été très rapide au final. Hein. La prise en main aussi. On a eu une équipe projet qui nous a accompagnés sur, 8-10 semaines. Et puis le projet a été lancé rapidement.
Avec un bandeau qui est très simple, qui est intuitif et sur lequel l'adaptation et la formation est très, très rapide, très courte.
Alors pour le CRM, ça a mis combien de temps, grosso modo? Alors, je vois un petit sourire.
On n'est pas encore, c'est pas fini, mais ça fait.
Ça a commencé quand ?
Ça fait plus d'un an.
Ça fait un peu plus d'un an.
Après, c'était un gros projet CRM.
Oui, parce que régional.
Régional qui réunissait
beaucoup d'acteurs.
Huit chambres de commerce. Il y a, je pense, 500 utilisateurs, 600. Enfin, c'était pas un petit chantier, c'était pas un petit projet CRM, c'était un gros chantier CRM. Donc il y avait beaucoup d'interlocuteurs autour de la table, beaucoup de besoins différents. Donc,
se mettre d'accord sur les champs, comme on disait tout à l'heure.
Oui,
sur les pratiques, de la donnée,
sur qu'est-ce qu'on veut récupérer, pas récupérer, sur les pratiques. Mais moi, c'est ça, mais moi, c'est ci. Comment on se met d'accord pour plus que ce soit moi, mais que ce soit nous. Et c'est souvent ça qui peut être.
Un aspect politique, peut-être aussi.
Absolument, tout à fait.
Et comment ça se. Justement, ça se. C'est le plus gros qui gagne ou c'est comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas évident. Alors, est-ce que c'est le chef de projet ? Est-ce qu'il y a des sponsors ?
On a eu de la chance quand même parce qu'à un moment, on s'est tous écoutés autour de la table. Il y a des choix pragmatiques qui ont été faits en se disant clairement par A plus B, on fonce dans le mur si on choisit ce chemin-là. En revanche, si on déroule le fil autrement avec une alternative, on peut tous s'en sortir. Donc c'était plus beaucoup de débats, mais pragmatiques. C'était pas forcément la loi du plus fort, très clairement. Il y a eu quand même beaucoup de débats, mais toujours en bonne intelligence collective, ça s'est bien.
Exactement, après, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que si jamais il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont besoin de ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Si c'est peu d'utilisateurs, peut-être qu'il y a des solutions de contournement qui existent, avec d'autres outils, d'autres façons de faire. Mais c'est important, effectivement. Et puis non, c'était pas la loi du plus fort, c'était vraiment de l'écoute. Enfin, déjà, on était conseillé par les différents prestataires. Et après, il fallait que chacun fasse entendre ses besoins et qu'on puisse y répondre.
Donc, l'importance du chef de projet, et Ludo l'a dit plein de fois, c'est l'importance de l'humain. plus qu'un projet technologique, il y a l'humain, il y a comprendre en fait comment fonctionnent les choses. Donc ça, c'est très important. Alors, si on vient à l'aspect pratique de cette intégration CRM centre de contact, donc vous l'avez dit, les gens utilisaient le centre de contact, ils utilisaient ensuite un nouveau CRM. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Est-ce qu'ils se sont dit, waouh, ça nous fait gagner du temps, parce que nous, on aura le témoignage de chez nous. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait après tout ça?
Alors, il y a eu le waouh sur le CTI, parce qu'on avait perdu sur l'ancien CRM, donc ça, c'était chouette. Après, on l'a vu sur la durée moyenne de traitement, la DMT, elle a doublé dans un premier temps. Ensuite, elle a commencé à être réduite, mais ça, c'est de l'accompagnement en changement, parce que c'est pareil, on a fait beaucoup d'accompagnement utilisateur, des formations.
Chaque conseiller.
Exactement.
Derrière chaque conseiller.
Oui.
On a essayé de déployer par lot de conseillers, créer des équipes. Et chaque semaine, une équipe de 5. Et on était derrière eux. On répondait à leurs questions en même temps qu'ils répondaient au téléphone.
Pour le CRM.
Pour le CRM.
Voilà, oui, pas pour l'intégration, pour le CRM.
Pour le CRM. Mais on a fait la même chose aussi pour le déploiement.
Pour Eloquence, c'était la même chose. C'était accompagnement de proximité des utilisateurs. Et sur le CRM, la phase pilote a permis justement de pouvoir déployer des petits bouts d'utilisateurs comme ça. On a fait ça tous les 15 jours, je crois,
tous
de mémoire. Et ça permettait vraiment d'accompagner les personnes en proximité. Parce que là, c'est un changement.
Ouais, le changement de CRM, c'est quelque chose de très compliqué. Le click-to-call, enfin l'intégration CRM, c'est CRM centre de contact, c'est comme beaucoup plus simple. C'est plus un changement d'habitude et de
manipulation. Oui, exactement. Alors que là, sur le CRM, il y avait beaucoup de changements en termes de gestes métiers. Ouais. Et encore une fois, les agents, quand ils sont au téléphone, il y a une différence entre je suis en formation, j'ai le temps de le faire, et j'ai le client au bout du fil et je dois le faire en même temps.
Ou chaque clic, ou chaque temps de chargement
de page. Là, sur l'interface, je suis perdu, je ne sais pas où cliquer, comment je dois faire, ne pas stresser, pas perdre trop de temps non plus, parce qu'on voit qu'il y a des appels en attente. Donc, il y a des vrais enjeux derrière, et c'est important vraiment d'accompagner au plus près possible, en tout cas, les utilisateurs. Parce que sinon, derrière, après, il y a des freins qu'on a du mal à lever.
Il y a des levées de bouclier, les gens, ils disent, non, mais ça ne marche pas, c'est plus long.
Et après, même, il faut qu'ils soient ambassadeurs de la solution, parce que si jamais ils ont un avis négatif, ils vont le partager. Et avant même que les autres aillent dessus, ils vont partir avec un avis négatif.
Et ce qui est important aussi, c'est pas seulement au déploiement d'accompagner. Nous, on a créé un genre de hotline, justement, utilisateur, pour pouvoir tout au long de la vie de ce CRM, être en support des utilisateurs.
D'accord. Alors, on a vu pour la mise en place du CRM, donc je ne suis pas un choc, mais vraiment un vrai changement dans les habitudes de travail qui augmente la DMT. Avec le click-to-call, la levée de fiches, etc., ça permet en fait de gagner du temps. Est-ce que vous l'avez vu, comme vous avez vu les agents, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Waouh, ça me permet d'être plus efficace, plus productif ?
Complètement, parce que l'avantage de cette remontée de fiches, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la personnalisation de l'accueil. Le client n'a plus besoin de répéter où il en est, qu'est-ce qu'il attend.
On voit les échanges historiques.
On voit l'historisation des échanges, on voit les points de contact, est-ce que c'était sur un canal chaud, est-ce que c'était sur un canal froid. On peut réadapter notre réponse. Tout ça, ça a vraiment permis d'enrichir l'expérience client, chose qu'on n'avait pas du tout, qu'on n'avait plus du tout.
Qu'on a eu et qu'on a
l'appropriation au niveau du confort dans cette gestion de la relation client, elle s'est bien passée, vraiment bien passée à ce niveau-là.
Et au niveau de le nombre d'appels, la DMT, est-ce que ça a permis de faire baisser un petit peu aussi les stats? Parce que c'est vrai que Ludo partagera un cas de chez nous. C'est vrai que pour les appels sortants, nous, on avait vu un x2 au nombre des appels, certains clients. Est-ce que vous, ça vous a vraiment donné une meilleure fluidité dans les parcours?
Pas forcément. Ce qu'on a regardé. Pas forcément parce que, encore une fois, il y a la complexité aussi de la structure pour laquelle on travaille, où il y a un questionnement qui est bien particulier, où l'identification de la typologie du client nécessite des fois quelqu'un un peu plus de temps que sur un centre de contact qui pourrait être plus commercial. Il y a quand même cette dimension de service public, d'information. On a mis en place aussi une base de réponse avec le CRM qui permet d'envoyer une réponse qualitative et après échange au client. Donc, l'un dans l'autre, on n'a peut-être pas gagné en durée de traitement, mais je pense que dans la qualité des échanges que les clients ont avec nos conseillers, je pense qu'on a gagné, des points.
La qualité des échanges et enrichissement aussi. Ce que disait Tia, c'est vrai que nous, on demande, en tout cas, à nos conseillers, et ça, on a un impératif là-dessus, c'est on est, je crois, les pour présenter les meilleurs, en tout cas à mettre à jour la donnée dans le CRM, la donnée client. Et c'est important que chacun le fasse au sein de l'entreprise, parce que la donnée, c'est clé, on le disait tout à l'heure. Et là, l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on centralise, en tout cas sur la partie sortant, plus que ce que c'était auparavant. C'est-à-dire qu'on capitalise vraiment sur tout ce qui est appel sortant, activité téléphonique, les emails envoyés, on peut tout centraliser dans le CRM. Donc ça demande un peu plus de temps, parce qu'il y a des gestes métiers qui existe. Par exemple, si un client n'existe pas, il faut le créer, il crée une fiche de contact, ça va nécessiter de remplir X champs, donc ça prend pas plus de temps que de remplir un simple formulaire nom, prénom, email. Mais c'est important parce que ça permet d'enrichir vraiment la donnée client au niveau du CRM.
D'accord. Alors, si maintenant on passe à la pratique, donc Ludovic, 150 projets CRM à son actif, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents éléments? Parce que là, on a parlé de la théorie. Montre-nous en fait comment ça se passe. Par exemple, le premier, on en a parlé beaucoup de la remontée de fiches. Quels sont en fait le principe, à quoi ça ressemble et quelles sont les bonnes pratiques?
Alors, on va le voir sur l'écran. Effectivement, il y a une multitude de gains de productivité et d'efficacité qui peuvent être réalisés avec cette intégration. La première, c'est effectivement la remontée de fiches. Comme le disait Arthur tout à l'heure, comment ça va se passer? En fait, dans le centre de contact, on récupère une interaction qui se présente. Alors, ça peut être un appel entrant, ça peut être aussi une conversation de chat, ça peut être un chatbot, une information qui nous est poussée. Et au-delà même de l'identité de la personne qu'on peut retrouver dans une situation de chat, par exemple son email, ou avec un appel entrant grâce à son téléphone, on va pouvoir récupérer dans le serveur vocal interactif des informations que lui aura déjà composées sur son clavier. Un motif d'appel, un numéro d'intervention, un numéro de commande. Et donc, en plus de la remontée de la fiche, on pourra avoir dans cette interface des informations qualitatives, effectivement, le motif, numéro d'intervention. Et donc là, on ira encore un petit peu plus loin que la simple identification, mais on pourra déjà connaître.
Vous appelez pour un conseil de création d'entreprise, et comme sorti bonjour, vous voulez créer une entreprise, qu'est-ce que je peux faire?
Exactement. On aura déjà ces infos. Alors, ce qu'il faut prévoir, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais on peut se retrouver des fois avec un service dégradé, parce qu'effectivement, l'intégration est chaos, parce qu'il y a peut-être une maintenance ou autre chose. Et dans ce cas-là, il faut accompagner ces équipes, et il faut les former toujours sur l'outil CRM pour qu'ils puissent, de manière autonome, parce que là, ils vont être un peu assistés parce que la fiche va s'ouvrir, il y aura toute l'information qui sera accessible. Mais c'est bien de leur montrer comment on peut très bien utiliser l'outil CRM sans forcément cette intégration. Ils puissent retrouver l'information. Oui. On a différents niveaux, on en a parlé, c'est ce que vous mettiez vous en avant en disant soit on identifie la personne et on affiche la fiche, soit il y a plusieurs numéros qui correspondent à cette fiche et on peut afficher cette liste. On peut aller plus loin aussi avec peut-être un bouton qui permet de créer une fiche directement avec les informations qu'on a récupérées du SVI, effectivement la rechercher. Voilà, il y a toutes ces possibilités qui peuvent se mettre en place.
Donc, la remontée de fiche, c'est le gain de temps quand j'ai un appel. Le deuxième avantage, c'est le click-to-call, l'appel.
C'est effectivement l'appel. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est l'application CRM. Alors, il faut savoir, dans cette intégration, tous les outils CRM modernes actuels ont des connecteurs et permettent cette intégration.
Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Là, on a du Salesforce. Vous avez du Microsoft Dynamics, CEOS, nom de guerre. Donc, on peut parler aussi d'Efficy CRM, qui est un très bon CRM français, d'ailleurs, européen, on va dire.
D'accord.
Donc, il y a beaucoup de CRM métiers. Donc, comment ça marche? Alors, est-ce que c'est compliqué à être intégré à la solution?
Non, c'est peut-être, c'est ce que je trouve moi le plus simple et puis ce qui est le plus valorisant en gain de temps aussi pour un utilisateur. Vous voyez que là, sur ce que je vous présente à l'écran, on va avoir un numéro de téléphone qui va apparaître sous la forme d'un lien hypertexte. Et effectivement, en cliquant dessus, le CRM va envoyer l'information au centre de contact et l'appel va être composé. Alors, mon expérience fait que j'avais un client il y a une bonne dizaine d'années qui n'avait pas d'outils CRM et qui travaillait soit sur des fichiers Outlook, soit sur des fichiers Excel. Effectivement, lorsqu'on a dû intégrer les données, il y a eu un gros travail de requalification parce que dans les fichiers Excel, il n'y a pas de normalisation des numéros de téléphone et il y avait des numéros incorrects, il y avait des numéros qui n'en étaient pas, qui étaient des adresses mail. Il travaillait à l'international, donc il fallait normaliser ce fichier avec des indicatifs. Et il y a eu un gros travail, il a fait appel en fait à une société extérieure qui lui a requalifié, qui a normalisé son fichier. Et à partir de là, il a pu être intégré. Mais voilà, c'est le point de vigilance qu'on doit faire sur cette intégration.
Garbage in, garbage out.
Exactement. Et puis autre point, ce qui est valorisant, c'est qu'en cliquant dessus, C'est l'expérience, si tu peux tourner la slide qu'on va mettre en avant, c'est ce que nous on fait chez Locan. Notre cellule de prospection, en fait, eh bien, utilise déjà depuis plusieurs années cette intégration. Et donc, de manière simple, elle va composer un numéro de téléphone en cliquant dessus. Et à l'issue de la composition, eh bien, une interaction va directement s'intégrer dans le CRM avec, pourquoi pas, un motif qui aurait été prédéfini parce qu'on est sur une campagne bien ciblée. Et la personne n'aura plus qu'à mettre en place un petit commentaire. Ce qui est intéressant aussi dans cette intégration, c'est que auparavant, c'est un métier difficile parce que pour joindre un interlocuteur, il faut 5-10 appels. Et ce qui n'était pas valorisé dans l'outil CRM, c'est-à-dire que la personne qui faisait la prospection créait l'interaction uniquement si l'appel avait été réalisé. Et dorénavant, avec cette intégration, même si la personne est non répondante, on a quand même une interaction qui se crée. Et ça nous permet, nous, dans notre outil, d'avoir des indicateurs comme l'indicateur de joignabilité qui permet de savoir par prospect, par personne, combien il lui faut d'appels pour obtenir...
Et tu as tout à fait raison, puisque c'est vrai que c'est un indicateur qu'on utilisait beaucoup. On disait, faut que tu appelles 3 fois un prospect avant de dire, OK, il est injoignable, il est passé au mail. Et c'est vrai que si tu n'as pas ces données dans le CRM, tu dis, tu as bien appelé 3 fois.
On a effectivement sur la fiche de notre personne cet indicateur qui permet, à partir du moment où la cellule va appeler, elle a déjà cette information, elle sait à quoi s'attendre, c'est quelle action elle doit mener instantanément.
Ouais, c'est des réductions de clics aussi. Je me souviens qu'à l'époque, ils nous disaient, quand on doit faire un appel, il faut qu'on soit dans la campagne, il faut qu'on choisisse la campagne, tout simplement pour que nous, on ait un ROI derrière. Et que là, ça leur permettait de faire quasiment 2 fois plus d'appels par jour.
Mais ils gagnent du temps sur un nombre de clics, sur un nombre d'outils. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de naviguer entre 12 outils. Un outil déjà pour prendre connaissance du dossier, ensuite pour aller sur l'outil de composition, puis revenir sur le deuxième outil pour à nouveau faire son compte-rendu. Tout est intégré. Là, on voit justement cette copie d'écran, un exemple d'automatisme qui permet instantanément d'avoir une interaction qui se met sur l'outil. Donc, ce qui est intéressant sur cette intégration, c'est que, on a directement des indicateurs qui sont intégrés.
Ouais. Et donc, tu disais, attention aux KPI, faut des KPI, mais pas trop de KPI, c'est ça?
C'est ça, ouais. Faut bien expliquer les KPI aux agents, parce qu'effectivement, si on leur montre des KPI en disant, combien tu as passé d'appels, toute la quantification, elle peut être pas forcément bien perçue. Donc, faut bien expliquer la raison pour laquelle on fait ce KPI.
Ouais, on n'est pas là pour fliquer, mais on est là pour t'aider.
Pour l'expliquer. Il y a la valeur humaine et la valeur qualitative derrière chaque indicateur. J'avais juste un dernier exemple aussi qu'on pouvait faire sur un client qui avait mis une cellule juridique auprès de ses adhérents. Et l'objectif, effectivement, c'était de quantifier en fait combien d'appels étaient passés pour chaque client. Mmh. Et en fait, ils avaient pu obtenir avec cette intégration qui comptabiliser en fait chaque appel pour chaque client, chaque adhérent en fait. Il s'était rendu compte que 80% du temps qui était consacré par le service juridique se faisait sur des petits clients. Mmh. C'est toujours les plus petits clients qui nous embêtent le plus. Et donc ces phases forcément sont une bonne valeur ajoutée. Et voilà, ils avaient eu ces indicateurs parce qu'on leur avait poussé cette information dans le CRM. Et eux dans le CRM, ils avaient la catégorie du client, ils avaient la typologie, ils avaient tout ça. Et ils avaient croisé toutes ces informations.
Alors Ludo, toi qui as plus de 100, 150 projets CRM à ton
On va en avoir 200 d'ici 5 minutes.
Non, pas encore. Mais dis-nous, quelles sont un petit peu tes bonnes pratiques au niveau de l'intégration? Combien de temps il faut en global? On en a parlé tout à l'heure à la CCI, 8 semaines.
C'est un choix technique déjà. C'est un choix technique parce qu'effectivement, il faut être accompagné par le service informatique, par toutes les parties. Mais il faut effectivement réaliser peut-être un atelier avec des utilisateurs, faire une phase pilote en proposant, sur la fenêtre qui va s'ouvrir, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit afficher? On affiche uniquement le nom de la personne, on affiche peut-être aussi le type de client, le motif. Tout ça permet d'avoir instantanément une vue assez simple. Et voilà, faut voir aussi quels sont le type d'utilisation que veut faire le client. C'est de l'appel sortant, de l'appel entrant,
c'est différent.
On va faire différemment, ouais.
Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à passer à la session de questions-réponses et bien sûr, pouvoir gagner ce fameux livre. Alors Chantal, est-ce que tu vas faire une question facile ou une question dure?
Comme il y a déjà des participants qui ont répondu en début de session, donc on va compliquer un petit peu les choses, ça va être 2 questions en 1. Alors, je vais vous demander 4 lettres et 3 chiffres. Ma première question, comment s'appelle, comment la CCI a nommé son CRM, Microsoft Dynamics, en 4 lettres, et combien Ludo a-t-il de projets CRM à son actif?
Ah, on peut, on peut.
Une fourchette.
Je vous laisse répondre.
Alors, je vous laisse répondre, et en attendant, on va pouvoir prendre une première question à distance. Alors, Chantal.
Je pense que ça a été un petit peu répondu, mais j'ai Nicolas qui demandait sur la CCI, vous servez-vous également du CRM pour préparer les campagnes d'appels sortants? Bon, vous savez...
Absolument. En tout cas, l'outil Microsoft Dynamics permet de pouvoir faire du ciblage au niveau du CRM, hein, mm-hmm. pouvoir cibler soit sur l'entreprise, soit sur le contact, en fonction de tout ce qui existe dans le CRM. Donc il y a plein de choses qui existent dans le CRM. Après, on se rend compte maintenant avec le temps que c'est pas suffisant et qu'il faut utiliser d'autres outils, d'autres techniques pour pouvoir cibler efficacement en fait les entreprises. Je vous prends un exemple tout bête là qui a eu lieu pas longtemps. On fait une campagne de prospection pour inviter des clients à un salon sur la cybersécurité et on veut cibler des prestataires qui vendent des solutions de cybersécurité en se basant sur les entreprises au niveau de l'activité, donc tout ce qui va être lié au code APE, secteur d'activité. Ça, c'est pas possible de le déceler.
C'est
trop large, ça peut être n'importe quoi. Sur la fonction d'un contact, pareil, ça peut être le RSSI, mais au sein d'un groupe, et ils ne vendent pas de prestations. Donc il faut venir, en fait, après, qualifier la donnée dans le CRM. Et donc on en revient sur la même chose, c'est il faut qualifier la donnée dans le CRM en créant des qualifiants, des objets pour dire cette entreprise-là, son marché de destination, c'est la cybersécurité, mais il faut pouvoir obtenir cette donnée-là et donc venir croiser avec d'autres outils.
Un apporte-fichier, une liste de prestataires, d'éditeurs de logiciels, etc. etc.
Absolument.
SS2I, l'intégrer en fait dans une campagne, peut-être, vous créez dans une campagne, dans un champ, et ensuite vous avez votre ciblage, c'est ça?
Exactement, après c'est une donnée qu'on peut venir requêter par la suite en se disant, je sais que voilà les entreprises-là qui vont avoir ce qualifiant-là, par exemple, on l'a fait sur la base des contacts et des comptes, on a des qualifiants de comptes et de contacts, donc c'est des objets que n'importe quel administrateur peut créer pour pouvoir cibler précisément, ce contact-là, je sais qu'il est intéressé par ce sujet où je peux le contacter pour ça.
Ok, alors Chantal me dit qu'il y en a encore des questions.
Iqbel qui demande pour le centre de contact, comment enregistrer les interactions et l'historique client sans un outil CRM?
Alors c'est possible.
Dans le cas où par exemple notre outil Eloquent peut fonctionner de manière standalone, c'est-à-dire sans outil CRM, et dans ce cas-là, on lui propose une interface où il va effectivement avoir un annuaire dans lequel il y aura les informations de son client ou de son contact, et vous aurez un fil d'actualité avec l'intégralité des interactions, quelles qu'elles soient. Ça peut être des SMS qui ont pu être échangés, des conversations de chat, des appels entrants, sortants, des emails. Alors on a une vue 360 même dans notre outil avec une vue chronologique des interactions.
Et c'est ce que vous aviez au départ. Hein.
Absolument. C'est-à-dire que les interactions téléphoniques, enfin après, ça dépend de ce qu'on a déployé, mais effectivement, les mails, les chats, etc. Et même, il y a une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps, dans la 3.10.7, je crois.
C'est la 3.10.7. C'était une bonne question.
On peut mettre un commentaire qui n'a rien à voir avec un appel, où c'est un commentaire directement sur le contact qui vient s'ajouter dans la chronologie des interactions. Ouais. Et effectivement, l'agent peut mettre un commentaire et donc ça permet d'historiser tout ce qui est interaction client. Savoir, la personne a appelé pour ça. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que je lui ai répondu. Voilà. Donc après, ça dépend des besoins, mais le CRM n'est pas nécessairement obligatoire.
Ouais, c'est ce qu'on a vu dans l'atelier précédent avec Ecominéro, qui disait qu'ils avaient préféré dans un premier temps déployer la solution de centre de contact et ensuite le CRM, parce que le projet était trop compliqué, trop complexe dans un contexte d'hypercroissance. Mmh. Alors Chantal me dit qu'elle a une autre question qui lui brûle les lèvres.
Oui, donc Nicolas qui demande, n'y a-t-il pas de difficulté à partager une même donnée, client, entre plusieurs CCI?
Complètement.
C'est une bonne question.
Est-ce que vous n'avez pas eu, par exemple, des conflits de données avec des données qui étaient différentes sur un même contact?
Alors, si, parce que déjà, c'est les chambres de commerce qui sont sur une même région, donc forcément, potentiellement, 3 bases de données différentes pour l'historique, mais évidemment, il y a des contacts qui existent un peu partout. Donc, il a fallu réunir tous ces contacts-là, lequel garde-t-on, quel historique, etc. Donc, oui, il y a des questions. Après, il y a des enjeux sur, effectivement, et là, c'est un peu plus politique, c'est mon contact, c'est mon entreprise. Oui, mais moi aussi, je travaille avec. Donc après, ça, c'est la bonne intelligence, c'est des process à définir en se disant, moi, il m'a contacté, toi aussi, t'as contacté. c'est notre client à tous les deux, comment on fait en sorte que...
Donc après, il y a eu un travail aussi sur la gouvernance de la donnée.
Oui.
Ça, c'était un gros chantier.
Qui a été fait en amont.
Qui a été fait en amont pour pouvoir justement trancher et se dire, on se met tous d'accord autour de la table et ce sera comme ça pour la suite du projet.
D'accord. Alors Chantal, le gagnant ou la gagnante ?
Oui, alors j'ai une dernière question et j'ai un gagnant qui est un performeur puisque j'ai quand même de la mémoire et je retiens les noms d'une année sur l'autre. Thibaut Legac qui, à nouveau, comme l'année dernière, gagne un livre, a été un des plus rapides. On va lui refaire sa bibliothèque au fil des années.
Donc Thibaut Legac. Quel livre il veut gagner l'année prochaine et on choisira le livre à faire gagner pour la journée.
Là, j'ai vérifié, effectivement, il avait aussi répondu très vite l'année dernière. Et une dernière question qui était pour Eloquent. Vous êtes intégré avec quel CRM ? Donc je pense que ça concerne les CRM avec lesquels notre solution s'intègre.
Je pourrais en citer une bonne dizaine actuellement sur lesquels on a de l'expérience d'intégration, mais comme je le suis précisé, n'importe quel CRM aujourd'hui est ouvert et on peut s'intégrer et faire une intégration avec n'importe lequel.
Ouais, donc on avait noté Salesforce, Microsoft, Effici, Idil, Pega, Edo, etc. etc. Donc, on a tout un attirail d'intégration à disposition et comme tu disais, on peut faire du sur-mesure. Même, je crois que même deux ERP comme celle-ci, qui sont X3, etc., on peut directement se connecter à un ERP au lieu d'avoir, si on n'a pas un CRM.
J'ai visité un centre d'appel hier qui effectivement avait X3 et sur lequel il y avait la remontée de fiches qui se faisait avec des numéros de clients.
Alors X3, c'est Sage pour ceux qui ne connaissent pas. Ok. Alors, est-ce que Chantal, il y a une dernière question? Autrement, on aura dépassé d'une minute le timing.
Je pense que ça va être bon.
Merci à nos invités pour ce beau retour d'expérience sur l'intégration CRM et centre de contact. On va se retrouver à 14h pour une thématique qui va être vraiment très intéressante, qui est l'engagement des collaborateurs. Et là, en fait, on aura la Massif et Soluasa qui vont nous détailler deux plans d'action. Un plan d'action en 5 points avec la Massif, qui est vraiment très pertinent, avec à la fois de la participation, à la fois en fait des outils internes qui ont été déployés. Donc vraiment un très beau retour d'expérience. Et Soluasa, qui a une méthode vraiment très visuelle, inspirée des méthodes d'amélioration continue, avec, vous le verrez, un mur des clients qui est animé une fois par semaine. Donc un dispositif que je trouve vraiment très original et très intéressant. Donc vous pourrez découvrir dès 14h donc, les stratégies pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs autour de l'expérience client avec un focus mutuel et assurance. Merci à tous et puis donc à tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée.